Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Alors que la vie musicale est redevenue très intense sous nos latitudes, avec la rentrée récente de l'Orchestre National du Capitole, la 40e édition de Piano Jacobin toujours en cours, et le premier opéra de la saison qui s'annonce au Théâtre du Capitole. Pour commenter et présenter cette actualité foisonnante, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse à la Dépêche du Midi, mon ami Robert Pénavert qui fait son retour, cofondateur, rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. C'est donc en trio que nous accueillons l'invité d'honneur de ce numéro, Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique de l'orchestre baroque de Montauban Les Passions. Si Jean-Marc Andrieux est à nos côtés aujourd'hui, c'est parce qu'il est aussi le fondateur et le directeur artistique du festival Passion Baroque, dont la 5e édition se tient à Montauban et ailleurs dans le Tarn-et-Garonne du 5 au 13 octobre. Elle est sous-titrée à la rencontre des baroques du monde. Nous allons vous expliquer pourquoi et vous faire découvrir toute la programmation du festival avec Jean-Marc Andrieux en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, place à l'actualité récente et à notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous ouvrons cette rubrique avec la rentrée très attendue de l'Orchestre National du Capitole samedi dernier à la Halle aux Grains. L'ensemble symphonique toulousain était dirigé par son chef attitré Tougan Sokiev et il a accompagné lors de la première partie de ce concert le jeune pianiste ouzbek Behzod Abdouremov dans l'interprétation du deuxième concerto de Serge Rachmaninov. Alors sur le papier, tous les ingrédients semblaient réunis pour un grand moment de musique, que ce soit l'œuvre programmée ou les musiciens qui allaient la jouer. Est-ce que le résultat a été à la hauteur de nos espérances respectives? En ce qui me concerne, oui, 100 fois oui. Est-ce que c'est aussi votre cas, Anne-Marie?
Je crois qu'il serait difficile de dire que ce n'était pas un bon moment de musique, puisque le public était ravi et surtout très nombreux, sans doute pour saluer le début de saison de l'Orchestre du Capitole, mais aussi pour écouter des œuvres qui sont célèbres, comme le concerto numéro 2 pour piano de Rachmaninov, et ainsi que les suites pour orchestre, les deux suites pour orchestre de Roméo et Juliette de Prokofiev. Donc c'était des musiques russes qui se laissaient écouter, entendre avec plaisir, même si on n'était pas forcément averti de la musique classique, donc le public a beaucoup apprécié. Et puis les interprètes, l'orchestre était en belle forme pour cette rentrée, sous la direction de son directeur musical Tugan Sokiev. Bien entendu, il était très à l'aise dans ses œuvres. Et puis ce programme a permis d'écouter un jeune pianiste ouzbek qui s'appelle Behzod Abdouremov. Un pianiste qui fait une très belle carrière actuellement, qui est moins connu chez nous et qui est déjà venu à Toulouse d'ailleurs. Il avait même été soliste au piano Jacobin et la version qu'il a jouée du concerto de Rachmaninov était, comme on peut l'attendre dans cette œuvre, d'une virtuosité phénoménale, parce qu'on ne peut pas jouer cette œuvre sans avoir une technique qui soit vraiment superlative et en même temps aussi avec beaucoup de nuances, un piano qui sait rêver, qui a un toucher très délicat quand il le faut, beaucoup de force. Je crois que c'était vraiment un très beau moment de musique avec un concerto qu'on connaît par ses belles mélodies, qui est très joué. Et les suites pour orchestre de Roméo et Juliette ont permis aussi à l'orchestre de faire entendre la bonne santé de tous ses pupitres, les couleurs de l'orchestre. Et je crois que là, c'était un concert pour un large public qui était en plus au rendez-vous. Donc, on ne peut pas dire que les gens n'étaient pas satisfaits de ce premier concert de la saison.
Oui, alors concernant Roméo et Juliette, il y a eu aussi de très beaux solos des solistes de plusieurs pupitres, notamment David Minetti pour la clarinette, Sandrine Tilly pour la flûte, Estelle Richard pour les bassons, et puis quelques autres, j'en oublie. L'orchestre était en très bonne forme, effectivement, et c'était un peu l'euphorie dans la salle d'ailleurs. À la fin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'applaudissements et de rappels. Behzod Abdouremov, il est venu en 2016, je crois que vous l'aviez interviewé à l'époque.
Oui, je l'avais interviewé, oui. Mais ce garçon entame une belle carrière. Il est bien, je pense, un pianiste de sa génération. Il n'a que 29 ans maintenant, donc il est en pleine maturité et je crois qu'il est en train de se faire connaître un petit peu partout dans le monde et que là, on a pu apprécier dans une œuvre, c'est vrai, vraiment, qui est un cheval de bataille de la musique classique, le concerto numéro 2 de Rachmaninov, qui ne le connaît pas, mais il faut aussi le jouer et le jouer bien, si on veut lui rendre justice.
C'est un morceau de bravoure, surtout pour les pianiste, parce que bon, je pense que la plupart essayent de s'y confronter à un moment ou à un autre. D'autant plus, chose rare, que c'est le piano qui lance le concerto, le piano seul.
Oui, exact. Donc, c'est d'abord le pianiste qui est la vedette de la soirée, et puis qui le restera au moins jusqu'à l'entracte. Et je crois qu'avec Tugan Sokiev, qui le connaît, puisqu'il l'avait déjà dirigé, il y a eu une entente, ce qui est tout de même la chose la plus importante dans un concerto, c'est que le soliste et l'orchestre et le chef vibrent à l'unisson, sinon ça se passe moins bien.
Mais oui, alors surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un équilibre quasi parfait. Je ne sais pas si la perfection est de ce monde, surtout en musique. Jean-Marc Andrieux ne va pas me contrarier là-dessus. Mais l'équilibre entre l'orchestre et le piano était vraiment très, très réussi. Et puis, dès les premières notes, ces fameuses premières notes du concerto numéro 2, grave, solennel, qui pose vraiment le décor, on a vu tout de suite qu'il avait un son à la fois dense, puissant et profond. Alors, il a joué un bis. Et ça, beaucoup de personnes se sont demandé ce qu'était ce bis, moi le premier. Il y a eu plusieurs pronostics dans la salle. Moi, j'ai pensé que c'était encore du Rachmaninov. Alors, figurez-vous, c'était du Rachmaninov, mais pas tout à fait. C'était une berceuse de Tchaïkovski arrangée par Rachmaninov. Il fallait le connaître quand même. Hein. Et justement, j'en profite pour saluer notre ami Serge Chosy qui devait être avec nous aujourd'hui, qui malheureusement a un petit problème de santé. Et c'est grâce à lui qui est allé poser la question à Bezot Adoremov pendant l'entracte que j'ai su que c'était donc une berceuse de Tchaïkovski arrangée par Rachmaninov. Les suites numéro 1, numéro 2 de Roméo et Juliette, bon, on en a parlé. Hein, vraiment, l'orchestre a été magnifique. Et il est revenu en grande forme, hein, je trouve, cet orchestre, après la pause estivale, encore que la pause. Ils ont beaucoup joué aussi cet été, hein.
Oui, mais là, je crois qu'ils ont eu une pause et que ça leur réussit, qu'ils en ont besoin tout de même. Même dans un concert de ce type où ce sont des œuvres célèbres, que le public aime entendre, c'est aussi délicat pour un orchestre, dans la mesure où les gens connaissent ces œuvres et sont aussi aptes à juger si les solistes et tout le monde est à la hauteur. Et là, c'était dans tous les solistes, il y avait vraiment une maîtrise formidable. Et donc, c'était un concert qui a ouvert la saison bien. La suite devrait nous donner la même impression, puisque les concerts seront très variés, des concerts avec d'autres chefs d'orchestre, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, bien sûr. Alors une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'effectivement le public était enthousiaste pendant ce concert et à la fin, mais surtout c'est que la Lohengrin était pleine, archi pleine pour ce concert de rentrée.
Abondé, puisque la l'affichait complet, ce qui est quand même assez rare. C'était vraiment complet, complet. Donc, il n'y avait plus une place. Il y avait des gens partout, là-haut, de tous les côtés. Il y a quand même 2200 places maximum. Et donc, là, elle était vraiment pleine. Ce qui prouve aussi que les œuvres un petit peu du répertoire, les œuvres qui sont célèbres, disons que ça attire le grand public. Alors, il faut prendre des risques, parce qu'on ne peut pas jouer que des œuvres ultra célèbres, mais aussi le grand public aime bien réentendre ce qu'il connaît.
Voilà, je pense que beaucoup de gens effectivement étaient venus pour entendre le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov qui a magnifiquement joué donc Bezot Adoremov avec l'orchestre du Capitole. On va encore l'écouter dans cette émission, ce fameux concerto numéro 2 de Rachmaninov, et on va l'écouter joué par Bezot Adoremov, accompagné cette fois-ci par l'orchestre de Paris dirigé par Stanislav Kochanowski. Thank you. Le premier mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov, joué par Bezot Abdouremov, accompagné par l'orchestre de Paris sous la direction de Stanislav Kochanowski. Stanislav Kochanowski, je le dis au passage, qui dirigera bientôt l'orchestre du Capitole lors d'un concert Happy Hour. Ce sera le samedi 12 octobre. Alors, évidemment, on espère revoir bientôt à Toulouse ce jeune pianiste ouzbek parce qu'il a vraiment quelque chose de particulier, comme en témoigne l'extrait que nous venons d'écouter. Et nous allons rester chez les pianistes. On va parler un peu du piano jacobin. Malheureusement, Serge Chosy devait venir nous parler des concerts de Nicolas Angelich et de David Frey. C'était le seul parmi nous à y voir assister. Mais vous, Anne-Marie, vous avez assisté à un concert. Alors là, c'était du jazz, parce qu'il y a du jazz aussi à piano jacobin. Concert de ce pianiste cubain, Rolando Luna.
Oui, le concert a eu lieu samedi 14 septembre et aussi lundi soir pour une fondation privée. Mais Rolando Luna est un jeune pianiste cubain, oui, qui joue avec une énergie assez contagieuse.
Communicative.
Communicative, voilà, je cherchais le mot. Et il est à la fois pianiste, arrangeur, compositeur, c'est un artiste atypique. C'est aujourd'hui une personnalité du jeune jazz cubain. Sa formation classique lui permet de mêler quand même la rigueur, le souci de la nuance, à une grande fantaisie sonore, à un dynamisme. Il est très virtuose et il développe un univers improvisé, c'est vrai, mais très personnel, avec de très beaux moments aussi de rêve. Et il a, je crois, vraiment séduit le public de piano jacobin, puisque piano jacobin, ce sont des concerts classiques pour la grande majorité, mais il y a tous les ans un concert de jazz.
Il y en a même plusieurs,
oui, et de jazz, qui est du jazz plutôt classique ou de jazz un petit peu, là, nouveau. Et ce garçon, il est vraiment charmant quand il joue, il présente, il sourit, il est plein d'énergie. Et c'est vrai que ce qu'il fait, en même temps, il a un toucher qui est très beau. Et donc, ces improvisations sont toujours très agréables pour une oreille musicale aussi, musicale classique.
Pianiste cubain de formation classique, comme c'est souvent le cas pour les pianistes qui sont issus de ce pays, il y a vraiment une école du piano essentiellement cubain qui vaut la peine d'être découverte à travers des musiciens comme celui-ci. Eh bien, nous terminons cette première partie d'émission avec du jazz, une fois n'est pas coutume. Une toute petite pause et nous retrouvons Jean-Marc Andrieux, notre invité d'honneur, pour une seconde partie largement consacrée au festival Passion Baroque et à sa programmation. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et donc avec notre invité d'honneur Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique de l'orchestre baroque de Montauban Les Passions. Jean-Marc Andrieux, également fondateur et directeur artistique du festival Passion Baroque. La cinquième édition a lieu à Montauban et dans quelques autres villes du Tarn-et-Garonne du samedi 5 au dimanche 13 octobre. Alors tout de suite, il faut qu'on précise que le festival jusqu'à l'édition précédente se déroulait en mars et tous les deux ans. Cette année, c'est en octobre et il semble donc qu'on entre dans un nouveau cycle puisque Passion Baroque devrait maintenant devenir annuel.
Oui, le choix de déplacer au mois d'octobre, c'est d'abord pour des considérations, on va dire, de température. Au mois de mars, il fait encore froid dans les églises, dans des lieux de concert qu'on ne peut pas occuper. Il y a aussi une actualité culturelle à Montauban au mois de mars qui nous occasionnait quelques petits télescopages. Du coup, on s'est déplacé en octobre. Ça nous permettra de résoudre ces deux petits problèmes.
Et donc, on peut confirmer aussi à nos auditeurs que le festival va bien maintenant être annuel. On aura une édition chaque année.
Exactement. Ça fait donc deux fois plus de travail, mais on est heureux quand même.
Et oui, on ne chôme pas aux passions, je le sais. Alors, cette cinquième édition est sous-titrée « À la rencontre des baroques du monde ». Moi, j'ai tendance à penser que le baroque, c'est typiquement européen, même plutôt ouest-européen, que c'est précisément daté entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on entend par « baroque du monde » ?
Oui, en fait, l'idée, c'est de faire entendre à la fois le rayonnement musical et même culturel à cette époque-là, puisque la culture va commencer à se propager sur d'autres continents, et puis faire entendre aussi des expressions artistiques contemporaines de cette époque-là, notamment en Corée, où on a voulu faire entendre ce qui se passait en Asie au même moment. Mais là, il n'y a pas d'influence, si vous voulez, c'est indépendant.
Oui, alors quand je dis que le baroque était, c'était une musique typiquement ouest-européenne, en fait, il s'est diffusé, notamment en Amérique du Sud,
oui,
via l'émission jésuite.
Exactement, ça. Et on va faire entendre une des représentations de cette influence-là, notamment avec l'ensemble qui vient du Chili.
Et donc, ça, cette diffusion s'est faite en même temps que l'époque baroque, telle qu'on la connaît.
Tout
donc,
à fait.
Fin du 16e, 17e, voilà. Alors, autre singularité de ce festival 2019, il n'y a pas que des concerts, loin de là. Quelles sont les autres propositions que vous avez intégrées à votre programmation?
Eh oui, on a souhaité aussi faire découvrir au public d'autres expressions que musicales pour compléter l'offre artistique. Il y aura donc des conférences. On a souhaité travailler avec Eidos, une association qui travaille sur le cinéma à Montauban, avec une discussion sur le baroque dans le cinéma autour du fameux Barry Lyndon de Kubrick. On reverra, j'espère, avec plaisir. Avec un documentaire aussi sur les Indes galantes. C'est un court-métrage qui fait entendre des extraits des Indes galantes de Rameau, mais qui sont mis en chorégraphie par des danseurs contemporains new-yorkais de rue.
Ça, on va en parler, parce que en fait, j'ai vu un petit extrait, il y a une vidéo qui existe sur Internet, j'ai vu ce que ça donnait, c'est très surprenant.
C'est surprenant, oui. Effectivement, le but étant aussi de surprendre. Conférence aussi et discussion avec Léonore de Recondo, une jeune violoniste qui a aussi un talent d'écrivaine, puisqu'elle est très connue aussi dans le milieu littéraire. Et puis, on va organiser des rencontres avec des enfants pour que les enfants aussi aient en contact avec les artistes.
Et puis il y aura des masterclass, bien sûr, comme on peut en voir dans d'autres festivals. En tout cas, donc une programmation extrêmement bigarrée, extrêmement variée. J'ai l'impression, en voyant tout ça, que ce que vous cherchez avant tout, c'est à toucher de nouveaux publics.
Bien sûr.
Ce que cherche à faire beaucoup de festivals et
tout
de
saisons classiques. Tout le monde essaie de le faire.
Mais c'est pas toujours très simple. Alors vous innovez un petit peu quand même, hein, parce que vous allez chercher loin. Il est même question de culture urbaine.
Oui, absolument. On considère qu'il n'y a pas de frontières. Il ne faut pas qu'il y ait de frontières entre les expressions artistiques, culturelles. Et voilà, si on peut attirer des jeunes, tant mieux.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, festival à Montauban et ailleurs dans le Tarn-et-Garonne. Donc, il y a un certain nombre de propositions hors de Montauban. C'est nouveau, ça, cette façon de délocaliser un petit peu le...
C'est pas nouveau, mais ça s'est bien développé. On organisait un ou deux petits événements hors Montauban, mais là, on va en organiser davantage. À Beaumont-Lomagne, notamment, la maison Fermat, la maison natale de Fermat. Vous vouliez en reparler,
j'imagine. Eh bien, j'allais y venir, parce que j'allais parler de votre programmation.
Et l'abbaye de Beaulieu, voilà, où on organise un concert là. Et puis, à l'église d'Escatalens, voilà, on essaye de rayonner sur le département pour amener la culture aussi bien
dans les campagnes.
Voilà.
Donc, ce festival se déroule du 5 au 13 octobre. En fait, ça se passe en deux temps, hein, puisque les grands concerts, c'est surtout à la fin, entre le 10 et le 13 octobre.
Oui.
Mais dès le premier week-end, donc du 5 au 6 octobre, il y a des choses assez inattendues. Et par exemple, dès le 5, celle que vous veniez d'évoquer, à la maison de Fermat de Beaumont-de-Lomagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu, est-ce qu'il va s'y passer le 5, Pierre de Fermat? Donc, ce serait sa maison natale, c'est ça?
C'est la maison natale de Fermat. Effectivement, il est né à Beaumont-de-Lomagne, on ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas, mais il y a une maison qui est mise en valeur. Sa maison natale est devenue un centre très important sur la pédagogie des mathématiques, sur la recherche. Et il nous arrive avec les passions de participer à des conférences qu'on illustre musicalement. Alors cette fois-ci, il y a un mathématicien, Xavier Buff, qui est professeur à l'université Paul Sabatier, qui viendra faire une conférence sur les fractales. Alors évidemment, on va se dire, mais comment on va pouvoir illustrer les fractales en musique?
Mais déjà, il faut savoir ce que ce sont les fractales. Je vois Robert Penavert qui imite. Le mouvement d'un rameur, rassurez-vous, je rame autant que vous.
Si vous voulez bien de faire des commentaires, Eric.
Mais je rame autant que vous, je rame de concert, si vous me permettez ce jeu de mots.
Non, mais je pense qu'on peut ramer à trois même.
Ah, bon,
non, mais ça, or.
On va aller plus vite comme ça.
Ne soyons pas complexés et venons écouter, parce que c'est de la vulgarisation, ça s'adresse à tout le monde, et puis on peut lui poser des questions, j'imagine.
Alors, c'est quoi? Ce sera un concept, une notion, c'est quoi? C'est spatial, c'est...
Alors, les fractales, c'est un motif qui se reproduit, vous connaissez ça, dans la nature, on trouve ce motif-là. Alors, moi, je suis parti de ce principe de motif, et dans le domaine musical, c'est la répétition d'un motif. Le principe qui revient le premier à l'esprit,
canon,
c'est
le canon.
Ouais, canon. Et du coup, on va illustrer ça par des canons, notamment l'extrait de l'offrande musicale, et puis le canon de Téléman, et le canon de
Pachelbel.
Eh oui, bien sûr, on va le jouer.
Bah, voilà.
Et puis, j'expliquerai un petit peu comment le compositeur structure sa pensée pour arriver à composer un canon.
Alors voilà, donc grâce aux illustrations musique, on va tout de suite comprendre ce que sont les fractales. Donc il faut y aller, c'est le 5 octobre, donc à la maison de Fermat. Fermat qui était contemporain d'ailleurs de l'époque baroque complètement.
Au début, le premier tiers, oui, tout à fait. Et puis il était ami de Descartes, de Pascal. Il correspondait avec Mersenne aussi, avec le père Mersenne, qui a été un des grands théoriciens de la musique. Enfin bon, je ne vais pas parler de Fermat pendant.
Non, mais c'est intéressant.
Et il habitait à Castres aussi.
Oui, il est mort à Castres.
Il est mort à Castres, et oui.
Il y a quelqu'un ici qui est né à Castres, je ne sais pas qui, vous connaissez.
Votre serviteur.
Ah oui, c'est ça, il me semblait bien. Alors, le lendemain, 6 octobre, le dimanche, vous organisez une soirée consacrée au thème Parlons baroque. Ça va se passer à Bressols, c'est juste à côté de Montauban-Bressols pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça se passe au cinéma La Muse à partir de 17h30. Il y a beaucoup de choses au programme apparemment.
Oui, là on part dans l'aventure du cinéma. Bon, j'avoue que moi je ne connais pas très très bien, il me tarde d'être à ce week-end. Avec un conférencier spécialiste du cinéma, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire baroque et cinéma, ou cinéma et baroque. Voilà, donc avec la projection, on en a parlé tout à l'heure de ce fameux documentaire là sur les Indes Galantes. Avec les...
Alors les danseurs, ouais. Parce qu'au début je pensais que c'était des danseurs de hip-hop. Non, il faut être plus précis, ce sont des danseurs de crump.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui savent ce qu'est le crump. Alors, c'est une danse urbaine, importée évidemment des États-Unis et qui est née au tournant du siècle dernier, donc vers l'an 2000.
À Los Angeles.
Voilà, à Los Angeles.
Alors, à ne pas confondre avec Trump, là c'est crump.
Non, c'est crump avec un K. Et donc, c'est un documentaire qui dure à peu près un quart d'heure.
Oui, c'est court.
Il y a une chorégraphie sur la musique des Indes Galantes, notamment sur le fameux rondo dit des sauvages.
Oui.
Vous n'y voyez pas de corrélation avec ce que vous allez voir, encore que. Voilà, donc c'est vraiment étonnant à voir. Hein. C'est pas
oui.
Ce que vous en pensez.
Je pense
baroque,
moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment l'énergie musicale de Rameau se transforme en énergie moderne de nos jours. Et je trouve le travail qui a été fait assez sensationnel. Il faut être curieux. En fait, ce que j'aimerais, c'est que les gens cultive la curiosité.
Je vais confirmer que c'est curieux. Alors, il y a une conférence après, donc vous en avez parlé, la notion, le sens du mot baroque, la définition qu'on peut lui donner. Et d'abord, qu'est-ce que vous donneriez comme définition à baroque?
Ah, j'avais peur que vous me posiez la question.
J'y comptais bien.
Baroque, justement, on va poser la question au public aussi, lors de la conférence causerie et débat. Moi, j'aimerais bien demander au public qu'ils associent ce mot baroque à un adjectif. Alors, bon... biscornu, tarabiscoté, compliqué,
irrégulier,
voilà. On peut le concevoir de deux façons, soit historique, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une période de l'histoire de la musique, mais c'est aussi le caractère d'une musique qui peut choquer, qui peut être... Enfin, c'est quand même plutôt péjoratif le mot baroque à l'origine.
C'est une
perle tordue, en fait, qui n'est pas très régulière, on en parlera aussi de l'origine du mot.
Et puis donc ça se terminera avec, plutôt l'après-midi se terminera, avec la projection du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, alors qui pourrait être représentatif ou emblématique de ce qu'est le baroque au cinéma.
Un peu d'une certaine façon, oui, justement je crois que c'est intéressant de voir le film et de se poser la question aussi de la musique.
Oui, alors il y a de la musique baroque, le film en lui-même ne paraît pas forcément baroque, moi, mais...
La fameuse sarabande de Handel, et ce thème-là, comment il est traité, comment ça s'intègre, et puis se poser les questions de l'intégration de la musique dans le film aussi, ça c'est des choses qui vont nous passionner.
Alors, les bandes originales sont toujours très importantes dans les films de Kubrick, et en tout cas c'est un très beau film. J'invite vraiment nos auditeurs qui seront dans le coin à aller à Bressols au cinéma La Muse. Pour le voir, il sera projeté à partir de 19h45. Alors on arrive au concert maintenant, ce projet à la période du 10 au 13 octobre.
Oui.
Et ça commence le jeudi 10 à 20h avec Manifesto Remix, un concert lecture de la violoniste et romancière Léonore de Recondo, accompagnée pour l'occasion par le claveciniste Yvan Garcia. Ça va se passer au conservatoire à rayonnement départemental de Montauban, dont Jean-Marc Andrieux est le directeur. Manifesto Remix, faut que vous nous expliquiez un peu, parce que comme ça, de prime abord, c'est pas très parlant.
Oui, c'est le but. On met des titres un peu énigmatiques, de façon que les gens se demandent de quoi il s'agit. Manifesto, c'est le titre du dernier roman de Léonore.
D'ailleurs, elle était venue en parler ici, dans ce studio, à Radio Présence, à l'émission de Monique Fauché, Parole d'auteur, ce qui m'avait donné l'occasion de la croiser. Elle avait son violon sur le dos.
Bien sûr, les violonistes, ça joue très bien. Alors, on va remixer des extraits de son... Enfin, c'est elle qui a choisi de remixer des extraits de son roman qu'elle va lire avec des pièces musicales qu'elle choisit, qu'elle va jouer au violon avec Yvan Garcia.
D'où le terme remix.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, vendredi 11 octobre, Théâtre Olympe de Gouges, enfin les passions, dans un lieu où ils ont l'habitude de jouer. Et là, vous allez jouer avec la violoniste Stéphanie Paulet un programme intitulé « Concerto pour rêve brisé ». Encore un titre qui intrigue. De quel rêve brisé s'agit-il ?
Il s'agit du rêve du duc d'Aiguillon, qui était ministre de Louis XV, et qui rêvait d'une vie culturelle, d'une cour à Paris, où il avait un hôtel particulier, où il entretenait un train de vie, on va dire, assez
somptueux.
C'est ça. Il était mécène, il aimait beaucoup la musique, la danse, le théâtre. Et la disgrâce l'a fait renvoyer sur ses ses terres à Aiguillon, où il est revenu un peu avant la Révolution. Grand bien lui en a pris, si on peut dire, puisque ses partitions, les 800 partitions qu'il a ramenées aussi à la maison, avec les musiciens et les chanteurs, et les danseurs, ces partitions ont été sauvées de la Révolution, et c'est un fonds musical très très important qui est conservé aux archives départementales d'Agen. Donc l'idée, c'est de faire entendre deux concertos pour violon, que Stéphanie jouera avec nous, qui sont extraits de ce fonds musical d'Aiguillon que j'ai un peu exploré.
Oui, vous connaissant, je pense que vous avez dû vous jeter sur ces 800 partitions, les éplucher, les étudier, puis donc vous en avez donc sorti ces deux concertos, mais qui sont de qui ?
Alors, le premier qu'on jouera, c'est d'Exodé. Vous connaissez peut-être le menuet d'Exodé.
Eh bien, non.
Compositeur français des débuts du XVIIIe siècle. Voilà, donc concerto pour violon. Et puis, le deuxième qu'on jouera, c'est Tartini. Concerto de Tartini qui est plus connu. Hein. Fameux violoniste italien, l'école de d'Italie du début XVIIIe aussi. Et on fera entendre, en plus de ces deux concertos, un concerto de Jean-Sébastien Bach, le La mineur, que Stéphanie a choisi de jouer avec nous pour compléter le programme. Et puis, on jouera aussi un concerto pour quatre violons de Valentin.
Eh bien, dites donc, c'est quand même très copieux le programme de ce concert. Un mot sur Stéphanie Paulet ?
Stéphanie Paulet, c'est une des meilleures violonistes baroques en France. Elle est premier violon de l'orchestre Insula Orchestra, Laurence Equilbé. Et elle joue en soliste un peu partout, en France et même dans le monde. On est très très heureux de la voir, et d'autant plus qu'elle est toulousaine, elle habite à Toulouse. Dès qu'elle est arrivée à Toulouse, elle est venue me voir et on a décidé de travailler ensemble, de collaborer. J'ai fait sa découverte quand j'ai fait la direction artistique du disque qu'elle a enregistré avec Yasko Bouvard, des sonates de Mozart pour violon et pianoforte.
Alors, le lendemain, samedi 12 octobre, à 17h, au Temple des Carmes, on est toujours dans les baroques du monde, là, en Europe, au cœur de l'Allemagne baroque. C'est le titre du programme que va jouer le Harvechte Oder Kammerchor de Hambourg, accompagné par l'organiste Xaver Schulte. Qu'est-ce qu'ils vont interpréter comme œuvre ? Alors, c'est un concert gratuit.
Oui, il y a des concerts gratuits dans la programmation pour augmenter aussi l'accessibilité au grand public. C'est un chœur semi-professionnel de Hambourg. J'ai une de mes amies qui chante dans ce chœur et qui m'a fait cette proposition que j'ai acceptée avec grand plaisir. Ça va compléter d'ailleurs notre programmation, puisque vous avez vu qu'on essaie de faire un petit tour d'Europe.
Et oui.
On va aller en Italie, on a été en France, enfin bon, bref.
L'Europe baroque.
Et là, on a des spécialistes des pièces vocales pour chœur de l'Allemagne baroque, donc avec des pièces de Swilling, de Schütz, et puis de Jean-Sébastien Bach, des motets de Bach. Donc c'est un excellent chœur. Harvechte Oder Kammerchor de Hambourg.
Qu'est-ce que vous prononcez bien l'allemand, donc.
Ah, je me suis entraîné avant de venir.
Le samedi 12 octobre à 17h au Temple des Carmes, concert gratuit, je le redis. Le même samedi 12 octobre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, Lanzamiento, c'est un programme qui va être donné par l'ensemble Les Carillons. Et si cet ensemble est présent à Passion Baroque, on le doit à votre rencontre avec le théorbiste Roberto Diaz, fondateur de cette formation chilienne. Et vous l'avez rencontré sans doute lors de vos tournées sud-américaines avec Les Passions.
Bien sûr, puisqu'on est allé jouer trois fois déjà là-bas. Et j'ai fait la connaissance de Rodrigo, on a sympathisé. Et donc, comme il nous a invités dans sa programmation, son festival à l'Université de Santiago du Chili, on a fait deux concerts là-bas, lors des deux tournées qu'on a faites. Et donc, bien sûr, je suis heureux de l'inviter en retour, et donc d'inviter les Carillons, son ensemble.
Alors, on parlait de la musique baroque européenne qui avait diffusé en Amérique du Sud à la même époque, via l'émission jésuite. Et là, c'est vraiment, ce sont aussi des œuvres qui ont été retrouvées grâce à ces missions. Ça s'est transmis, je suppose.
Tout à fait, tout à fait. C'est des partitions qui.
Mais ça vient de toute l'Amérique du Sud, ça vient pas que du Chili. Hein.
Ah, c'est pas que le Chili. Les jésuites, ils débarquaient, je crois, en Argentine, et puis après, ils traversaient à pied. Il y en avait pour un an de voyage pour arriver après en Uruguay. Ils remontaient le Chili,
ouais.
Pérou, Bolivie. Ça a essaimé dans toute l'Amérique du Sud.
Apparemment, il y aura des partitions qui viennent du Pérou, de l'Équateur, du Chili, du Costa Rica. Il y en a même certaines qui viennent d'Andalousie tout de même.
Oui, il y a aussi des compositeurs italiens ou espagnols qui ont émigré là-bas, ou alors les partitions, on les recopiait, et les musiciens qui s'expatriaient, qui allaient jouer là-bas, ou les professeurs de musique qui allaient apprendre aux indigènes sur place à jouer, amenaient des partitions avec eux de musique italienne ou espagnole.
On va écouter l'ensemble Les Carillons et Rodrigo Diaz dans l'interprétation d'une chaconne qui, semble-t-il, a été composée par justement des compositeurs italiens. Ce doit être inspiré d'Alessandro Piccinini, mais composé par Andrea Falconiero. Thank you. Chiacone, pièce d'Andrea Falconiero, inspirée d'une autre d'Alessandro Piccinini, interprétée par l'ensemble Les Carillons de Rodrigo Diaz, à découvrir en concert samedi 12 octobre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, dans leur programme L'Andamiento. Pour le dernier jour du festival, trois propositions à Montauban. Il y a un point d'orgue à 12h15 avec le jeune organiste Mathieu Béramis, ce sont des messes de Couperin. Il y a un concert avec des musiciens sud-coréens à l'auditorium du conservatoire à 15h30. Et pour terminer, le concert de clôture, la Donia Barocca, à 18h30 au Théâtre Olympe de Gouges avec l'ensemble Le Concert de l'Hôtel Dieu et la soprano canadienne Heather Newhouse. Alors, une petite présentation de ces trois derniers moments du festival, Jean-Marc Andrieux.
Oui, bien sûr. Mathieu Béramis est élève en classe d'orgue de la classe de Sylvie Pérez, qui est professeur chez nous, et il jouera à la fin de l'office de midi sur l'orgue de la cathédrale de Montauban, hein, sur l'orgue Aon, qui est un très très bel orgue classique français qui a été restauré il y a une quinzaine d'années maintenant par Pascal Coirin. Hein. C'est un des beaux instruments à entendre de notre région.
Donc voilà, des messes de Couperin. Hein, ce
sera des extraits des deux messes de Couperin pour orgue. Voilà. Ensuite, donc, vous l'avez dit, on va entendre une proposition là, vraiment c'est... originale. Et je vous avoue que moi, je me garde la surprise. Je n'ai pas écouté sur donc, cet art du pansori, qui est un art ancestral de Corée du Sud.
C'est une chanteuse
qui déclame un texte en chantant, accompagnée par un percussionniste. Alors bien sûr, si on n'est pas coréen, on ne va rien comprendre. Il y aura un sous-titrage. C'est très poétique. C'est de l'histoire d'une jeune fille qui sauve une hirondelle et ça change le cours de la vie. Enfin, c'est une très très belle histoire.
Il y a un titre ce concert, le Di de Hung Bo.
C'est une des cinq grandes traditions du pansori, de cet art de la diction déclamée de Corée.
Et le pansori qui est totalement contemporain de notre baroque européen.
C'est ça qui m'intéresse, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres cultures, dans d'autres continents au même moment. C'est assez fascinant quand même.
Voilà, c'est ce qu'on entendait, mais il faut y aller pour savoir ce qu'on entendait en Corée du Sud au XVIIe, XVIIIe siècle, alors qu'en Europe nous avions Jean-Sébastien Bach et quelques autres. Et puis donc, on termine la journée du 13 octobre et le festival avec un programme au féminin, parce que la Donia Barocca, si ça s'appelle comme ça, c'est pour une raison bien précise, c'est qu'il n'y a que des compositrices au programme.
C'est ça. La Donna Barocca, c'est donc les compositrices italiennes du 16e, 17e siècle. Grande virtuosité, grande expressivité, c'est vraiment extraordinaire. Je m'en aperçois pas, mais on a remarqué aussi que cette programmation donnait une place très très importante aux femmes.
Oui, qu'elles soient musiciennes ou compositrices.
Romancières, on a aussi fait un hommage aux artistes que sont les femmes, qu'il faut surtout pas oublier. Donc,
mais c'est évolu à la base d'avoir beaucoup de musiciennes, ou vous êtes rendu compte, ah bah tiens, finalement...
Je me souviens pas. Franchement, je me souviens pas. Je crois qu'à un moment, on s'est dit, ce serait bien que, quand on a continué d'élaborer le programme, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de femmes. On s'est dit, on va continuer comme ça. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'on va pas le regretter.
Oui, parce que c'était à la rencontre des baroques du monde, mais ça aurait pu s'appeler le baroque au féminin, presque. En tout cas, certaines journées auraient pu s'appeler comme ça.
Il y a pas mal de festivals qui, effectivement, mettent les femmes en avant.
Alors le concert, donc ce dernier concert va être donné par l'ensemble, le concert de l'Hôtel Dieu. Vous pouvez nous dire un mot aussi sur cette formation très prestigieuse.
C'est un des grands ensembles baroques français qui est basé à Lyon, donc qui est dirigé par Franck-Emmanuel Comte, un excellent chef d'orchestre et claveciniste qui est professeur au Conservatoire de Lyon d'ailleurs, que je salue et qui m'a fait cette proposition-là que j'ai trouvée vraiment intéressante et qui complète notre programmation idéalement. Donc avec cette chanteuse canadienne Heather Newhouse, qui a une voix sublime et qui fera entendre parfaitement ce répertoire-là aussi, vous allez rendre compte que...
Mais on va l'entendre tout de suite d'ailleurs. Nous allons écouter le concert de l'Hôtel Dieu et la soprano canadienne Heather Newhouse, interprétée du Barbara Strozzi, c'est sans doute la compositrice de cette période la plus connue.
Oui, Barbara Strozzi, ouais, c'est une des compositrices les plus connues. Alors, où est-ce qu'elle était? À Ferrare, je crois. Il y a eu aussi Francesca Caccini, Antonia Bembo, toute une tradition de femmes qui ont laissé s'exprimer, ça c'était bien.
D'ailleurs, elle est née en 1619, donc c'est le 400e anniversaire cette année de sa naissance.
Ça tombe bien.
C'est encore un hasard.
Eh oui.
On va écouter un extrait de sa pièce « Eraclito Amoroso ».
Thank you.
extrait d'Eraclito Amoroso, pièce de Barbara Strozzi, interprétée par le Concert de l'Hôtel Dieu et la soprano Heather Newhouse, où je retrouve, on en parlait entre nous là pendant qu'on diffusait cet extrait, des échos, plus que des échos, même avec le Magnificat de Charpentier qui lui est postérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Andrieux ?
Oui, c'est bien observé, bien entendu, parce que en fait, la basse, ce motif de quatre notes qui se répètent, Charpentier a utilisé la même basse. Il y a beaucoup de compositeurs à cette époque qui ont utilisé cette basse qui permet beaucoup de développements musicaux, harmoniques. Je pense à Monteverdi. Charpentier, il y a une filiation entre la musique italienne début 16e et Charpentier, puisqu'il a été élève de Carissimi. Il a été à Rome, donc, et Carissimi a dû certainement lui faire entendre ses disques de Barbara Strozzi.
Eh bien, merci pour ce petit cours de musicologie et même d'histoire de la musique. Le concert de l'Hôtel Dieu et la soprano Heather Newhouse donneront donc le concert de clôture de Passion Baroque dimanche 13 octobre à 18h30 au théâtre Olympe de Gouges. Avant de passer la parole à Robert Pénavert pour qu'il nous parle de Norma au théâtre du Capitole, je voudrais que Jean-Marc Andrieux nous dise quelques mots sur le CD que les Passions viennent de faire paraître il y a quelques semaines sous le label Ligia. Quelles œuvres avez-vous enregistrées? Et avec quel chanteur soliste sur ce CD?
Oui, il vient de sortir et merci de me donner l'occasion d'en parler. On est très heureux que ce disque ait vu le jour. C'est le fruit d'une collaboration avec Magali Léger, une excellente chanteuse, et Paulin Bungen, qui est contre-ténor, un chanteur aussi extraordinaire. Et on a osé enregistrer le fameux Stabat Mater de Pergolèse, et puis qu'on a complété avec le Salve Regina de Scarlatti. Donc ce disque a été le fruit d'un grand bonheur, une collaboration fantastique.
Vous êtes allé vous mettre au vert pour l'enregistrer.
Oui.
Dites-nous, c'était parce que c'est un lieu splendide.
On est allé.
On nous écoute aussi.
À l'abbaye de Sylvanès, que je salue. Je salue mon ami Michel Volkovski en lui renouvelant mes remerciements.
Voilà, eh bien le Stabat Mater de Pergolèse est trop beau pour qu'on n'écoute pas un petit extrait du CD des Passions récemment paru. Que Merebat et Dolebat, Les Passions et Paulin Bungen. Oui, Merebat et Dolebat, extrait du Stabat Mater de Pergolèse et du CD des Passions de Montauban, enregistré avec les chanteurs Magali Léger et Paulin Bungen, un CD paru il y a quelques semaines sous le label Ligia. Et c'est maintenant à nous, et à vous Robert Pénavert, pour le dernier chapitre de cette émission que nous allons dédier à la présentation de Norma au Théâtre du Capitole. Le célèbre opéra de Bellini va y être donné du 26 septembre au 10 octobre. 8 représentations pour lesquelles il reste encore quelques places, je le précise d'emblée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette nouvelle production et de sa distribution, alors qu'on n'a pas vu Norma au Capitole depuis combien de temps en fait ?
Eh bien, depuis 40 ans.
Et voilà, oui.
Très exactement. Depuis
ça 1900, paraît incroyable.
Depuis 1979. Il y a 40 ans, ce n'était pas la première fois que l'on donnait Norma, hein, puisque j'ai retrouvé trace d'une Norma en 1964, c'est encore plus ancien, mais qui avait été donnée dans le cadre des galas italiens, qui à une époque venaient au Théâtre du Capitole et grâce auxquels on a découvert le jeune Bergonzi, etc. Voilà. Mais c'est, là non plus, ce n'était pas la création à Toulouse, puisqu'en fait, dès la fin du 19e siècle, Norma était au répertoire du Théâtre du Capitole. Oui. Et puis Norma a disparu parce que je pense que la redécouverte des normes du bel canto, Maria Callas, hein, ont fait que petit à petit, les interprètes se sont dit « Non, mais ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. » Résultat, par génération, on compte 3-4 Norma. Bon, à l'époque, juste après Callas, évidemment, il y a eu John Sutherland. Après, il y a eu évidemment Montserrat Caballé, mais il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Voilà le problème, très clairement, aujourd'hui, mis à part la Canadienne Sandra Radanowski, je ne vois pas qui peut chanter Norma, franchement, au niveau évidemment international, bien sûr. Hein. Bon, Sonia Yoncheva a refusé, Ned Trebko a refusé également, parce que c'est un rôle tellement difficile, c'est un rôle dans lequel on peut s'aventurer, mais si ça ne marche pas, on n'en revient pas.
Ouais, oui, ouais.
Donc, on peut se perdre oui, là-dedans. Alors, cette année, Christophe Grissier a très justement, il a bien fait, décidé d'affronter toutes ces grandes ombres qui ont disparu, pour évidemment toutes. Et puis, non seulement il a décidé de faire ça, mais de faire coup double. C'est-à-dire, on ne va pas vous donner une Norma, mais deux. Ce qui tient un véritable gageur, tout de même. Hein. Alors, pour ce faire, il a engagé celle qui commence à le faire un peu partout, qui est une soprano lettonne, qui s'appelle Marina Rebecca, qui a eu la chance de le faire, je crois, pour quelques représentations au Metropolitan de New York, mais pas que, qu'il a déjà fait par ailleurs. Bon, bah, il faut voir, personnellement, je n'ai jamais entendu si c'est un disque, puisqu'elle a fait un récital italien, de très grande qualité d'ailleurs, hein, mais je ne l'ai jamais entendu en direct, donc je réserve à la prochaine émission, si vous voulez.
Vos impressions.
Eric, mes impressions, voilà. Et ensuite, qui dit deux distributions, dit deux Norma, bien évidemment. Alors, l'autre Norma, alors là, je suis encore plus impatient de l'entendre, parce qu'en fait, c'est une soprano, elle est hongroise, qui s'appelle Clara
Kolonits.
Et en fait, dans ce répertoire, il y a La Reine de la Nuit. Pourquoi pas?
Oui.
Mais en fait, ça veut dire, si je me trompe, dans La Reine de la Nuit, il y a quelques contrefaits qui se baladent dans la partition. Or, Norma, elle ne monte pas au-dessus de lutte. Mais par contre, elle descend très très bas,
oui.
Elle descend largement en dessous de la portée. Tant et si bien que lors de la création, d'ailleurs, ça a été un échec parce que la soprano, la grande soprano, la célèbre soprano qui l'a créée, elle n'y arrivait pas. Et donc, dès le lendemain, Bellini a baissé d'un ton, d'un demi-ton, je ne me souviens plus, la partition afin que ce soit quand même un peu plus abordable. Mais en fait, le problème de Norma, ce ne sont pas les notes. Le problème, c'est un problème de style. Donc, il faut... En aucun cas, on ne peut faire que chanter Norma, ça c'est impossible. Soit on est une artiste qui interprète Norma, soit bon, on reste à la maison, quoi. Mais on n'aborde pas un rôle comme ça, manière de chanter le Castadiva, ça c'est impossible. Littéralement suicidaire de faire ça, surtout pour le public. Donc il y aura bien sûr deux adagis. La première, voilà, c'est une Française, Karine D. Et la seconde, alors, nous vient, elle est en troupe à l'Opéra de Vienne. Et très clairement, j'ai regardé un peu ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle est plutôt dans les deuxième, troisième rôles à l'Opéra de Vienne. Et là, elle vient pour la première fois affronter ce qu'on appelle un premier rôle. Parce qu'Adagis, bon, même si c'est pas la Norma, elle a quand même deux grands duos à assumer avec la Norma, plus un air. Enfin, bon, bref, c'est un vrai personnage, c'est un vrai rôle qui est véritablement écrit. Alors, on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui parce que c'est un peu long, mais j'imagine que la prochaine fois, nous aurons l'occasion d'y revenir sur les tessitures. Est-ce qu'il faut une mezzo, une soprano, une mezzo, voilà. Certaines cantatrices italiennes toutes récentes qui sont très célèbres et qui se sont arrangées de manière outrageuse là-dessus, nous en reparlerons.
Mais une fois qu'on aura entendu la production Capitole, on pourra en parler un peu plus sur le vif,
et
si
ensuite,
je veux dire.
Il faut quand même des hommes. Bon, parce que, d'accord, on n'entend parler que de dames autour de cette table. C'est normal, mais enfin, bon. Donc, il y a un ténor et une basse, quand même, vous savez, les opéras sans ténor. Et donc, le premier ténor, c'est Martin Mull. un ténor que l'on a déjà entendu au Théâtre du Capitole, c'est un germano-brésilien, dans le rôle de Paul Lyon, donc. Et le deuxième ténor, on l'a entendu et chanté le dernier Alfredo, qui avait ouvert la saison dernière. C'est un Espagnol, Airam Hernandez. Franchement, je vois bien dans Paul Lyon. Et puis ensuite, il faut deux basses, enfin, c'est pas des basses profondes, qu'il faut pour chanter Orovez, le papa de Norma. Et le premier, on le connaît aussi déjà, c'est Balint Chabot, qui est une basse hongroise qu'on a déjà vue au Capitole également. Et le second, alors, à ma surprise, c'est un autre Français. Alors, non pas parce qu'il est Français, mais parce que je le connaissais, Julien Véronèse, plutôt dans des rôles de baryton, basse, plutôt que de basse. Hein, ouais. Parce que ça, c'est vraiment... Orovez, c'est pas Boris, d'accord, mais c'est un vrai rôle de basse. Bon, alors certainement, la voix évolue, il n'y a rien de plus naturel. Et donc là, vraiment, il s'aventure dans un rôle de basse. Et je m'en vais pas mieux que de l'écouter.
Je voulais juste préciser, il est français, mais il est montalbanais aussi. Bon, en profiter pour le dire au passage.
Oui, Montalbanais, je lui souhaite bonne chance, il va y arriver, tu vas le faire, Julien.
Ah ben ça, en plus, j'en doute pas. Mais voilà, je ne m'attendais pas à un vrai rôle de basse pour Julien Véronèse. Ouais. Voilà. En plus, c'est une grande voix, Julien Véronèse, donc j'imagine, lorsqu'il veut un peu donner de résonance dans le creux, il doit savoir le faire. Alors ensuite, il faut parler quand même de la production, puisque cette Norma nous arrive dans une nouvelle production. Bravo, il faut le faire.
La mise en scène, surtout.
Mise en scène par une grande dame du théâtre français, Anne Dalbé, qui est connue comme actrice, mais aussi beaucoup comme metteur en scène. Pour des classiques comme Phèdre, enfin, des choses comme ça. Alors, cela dit, elle n'est pas une novice en matière lyrique, puisqu'elle a monté déjà 3 opéras. Mais enfin, c'est vrai que dans sa carrière, c'est extrêmement...
C'est marginal. Diffus,
oui. Mais, enfin... Oui, la récurrence des opéras est vraiment très diffuse, mais par contre, c'est pas rien, parce qu'elle a monté Le Chevalier à la Rose, elle a monté Don Giovanni, elle a monté Traviata, c'est quand même des opéras qui demandent de se pencher un peu sur le livret. Et nous allons découvrir un chef d'orchestre italien, Gianpaolo Bisanti. Franchement, c'est la première fois que j'entends.
Il y aura pas mal de premières, là, au Capitole, je veux dire.
Pas mal de premières, et puis c'est des distributions très excitantes, parce que c'est très intéressant de découvrir des chanteurs.
C'est Christophe Grissier. Ça,
c'est ce qui est le plus passionnant, en fait, finalement.
Tout à fait. Eh bien, on va écouter celle dont vous avez parlé tout à l'heure, cette soprano lettonne Marina Rebecca, dont l'air archi-connu de Norma Castadiva.
Thank you.
Casta Diva, l'air archi célèbre de Norma, chanté ici par Marina Rebecca, qui va interpréter le rôle-titre de l'opéra de Bellini, en alternance avec Clara Kolonitz au Théâtre du Capitole dans cette nouvelle production à découvrir du 26 septembre au 10 octobre. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie, très dense et très varié. Il me reste à remercier mes amis Anne-Marie Chouchon et Robert Pénavert de m'avoir encore une fois grandement aidé à l'animer. Tous mes remerciements aussi à Jean-Marc Andrieux d'en avoir été l'invité d'honneur et de nous avoir présenté la programmation du Festival Passion Baroque. La 5e édition a lieu du 5 au 13 octobre à Montauban et à ses alentours. Pour en savoir plus, je vous recommande de consulter le site web de l'Orchestre Les Passions, www.les-passions.fr, où vous trouverez le détail du programme du festival et toutes les informations pratiques. D'autre part, notez que les réservations sont à faire à l'adresse www.lesamidespassions.fr. festique.net. Je signale enfin que vous pouvez vous procurer le CD des Passions récemment paru également sur le site de l'orchestre. Il reste de nombreux concerts au festival Piano Jacobin, entre autres ceux de Matan Porat, Philippe Bianconi et Elisabeth Leonskaya lundi, mardi et mercredi. Renseignements et réservations sur le site www.pianojacobin.com. Pour réserver vos places à l'une des 8 représentations de Norma au Théâtre du Capitole, les 26, 27 et 29 septembre, ainsi que les 2, 5, 6, 8 et 10 octobre, il faut vous connecter au site du théâtre www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci pour votre écoute fidèle. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.